Raison et religion font-elles bon ménage? Il est évident que l'actualité paraît nous inviter à répondre plutôt par la négative, qu'il s'agisse d'une séparation stricte entre les deux ou qu'au contraire, un lien délétère, un lien morbide, quand la religion est instrumentalisée et devient véhicule de violence. Pourtant, comme vous le savez, Kant a écrit un ouvrage qui s'intitule « La religion dans les limites de la simple raison ». Et il est clair que dans un tel contexte, il est intéressant de relire cet ouvrage. Et Laurent Gallois nous en donne une excellente occasion puisqu'il propose une nouvelle traduction de « La religion dans les limites de la simple raison ». Je vous présente ce livre physiquement, donc il est publié au Classique Garnier, une belle présentation comme les ouvrages de cette collection avec bien sûr des notes du traducteur et je vous signale aussi un très précieux glossaire philosophique des notions kantiennes. Dans ce glossaire, Laurent Gallois a le souci d'articuler les notions qui apparaissent dans la religion dans les limites de la simple raison avec toute la réflexion critique de Kant. Mais ce n'est pas à moi de présenter l'ouvrage. Je ne ferai aujourd'hui qu'animer la soirée et nos invités, que je remercie vivement d'être ici, Monique Castillo et Raphaël Ersam, vont eux-mêmes vous présenter l'ouvrage et réfléchir surtout à partir de là sur l'actualité de la question posée, religion, raison et religion font-elles bon ménage ? Quelques mots sur l'organisation de la soirée. Donc, dans un premier temps, je donnerai la parole à Monique Castillo, puis environ une demi-heure, puis Raphaël Ersam, également une demi-heure. Dans un troisième temps, Laurent Gallois présentera un peu son travail, l'intérêt qu'il a vu à cette nouvelle traduction, les difficultés sans doute auxquelles il s'est heurté, les questions que cela lui a posées. Et bien sûr, il répondra aussi déjà, je suppose, à ce que Monique Castillo et Raphaël Ersam auront dit. Et dans un dernier temps, nous aurons un échange avec la salle. Avant de donner la parole à Monique Castillo, même s'il il est inutile de la présenter, mais je vais quand même le faire. Et donc, bien sûr, vous savez que Monique Castillo... Bon, et non seulement docteur d'État agrégé de philosophie et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, et surtout qu'elle est aujourd'hui professeure à l'Université de Paris 12, où elle dirige le séminaire d'éthique, droit et politique. Elle est également conférencière à l'École nationale de la magistrature, à l'IHEDN et au CHEM. Et je la remercie d'ailleurs très vivement d'être là ce soir, puisque l'IHEDN la requiert demain matin très tôt, d'après ce que j'ai compris, puisqu'elle part à 5 heures du matin. Elle a beaucoup publié, notamment, bon, bien sûr, dès 1990, Kant et l'avenir de la culture, en 97, Kant et l'invention critique, la responsabilité des modernes, essai sur l'universalisme kantien, en 2007, Le pouvoir en 2008, les médiations, la justice autrement en 2011, qu'est-ce qu'être européen 2012, l'identité en question 2013, sans oublier un ouvrage collectif européen sur le thème moral et politique des droits de l'homme. Ma liste n'est pas exhaustive, je vous invite à consulter son site où vous trouverez beaucoup plus d'indications. Mais sans plus tarder, je lui donne la parole en la remerciant vivement d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie de m'avoir adressé cette invitation, surtout que c'est un thème, évidemment, qui, aujourd'hui, se situe dans un contexte tout à fait particulier. Et c'est de là, si vous le voulez bien, que je vais partir. La traduction nouvelle de l'écrit de Kant sur la religion que propose Laurent Gallois intervient dans un contexte que les médias, selon leur inspiration, ont baptisé « retour du religieux »,« retour de la violence » ou encore « retour de l'histoire ». Alors il faut contextualiser soigneusement ce qu'implique de revenir à Kant pour aborder la question du rapport entre la religion et la raison. Contextualité de la traduction, pour commencer. Il était nécessaire pour penser avec Kant aujourd'hui de pouvoir le lire avec les mots et les outils philosophiques du XXIe siècle. Les traductions qui ont formé la génération des actuels soixantenaires avaient été écrites par des professeurs encore marqués par les habitudes ou les réquisites universitaires de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Et leurs textes sont devenus difficiles à comprendre par les étudiants d'aujourd'hui. Car les traductions, jadis, s'adressaient en priorité à des publics scientifiques spécialisés. Mais enseigner ou traduire de nos jours, c'est permettre la compréhension d'une œuvre et former la recherche sur la base d'une intelligence des textes qui choisit de se rendre elle-même communicable. Mais ça ne suffit pas, il faut contextualiser aussi les termes du débat. De quelle raison parle-t-on quand on met la raison face à la religion ? Et c'est bien sûr en rapport avec cette question que peut être contextualisée à son tour la pertinence des positions kantiennes face à la religion, ce qui définit maintenant un autre niveau de contextualisation pour notre débat de ce soir, dont je rappelle le thème « Raison et religion font-elles bon ménage ? Un défi de toujours ». Alors je me propose, si vous le voulez bien, de traiter selon quatre scénarios ce besoin de contextualisation multiple. Le premier scénario est celui de la guerre déclarée à la religion par la raison. La raison décide de réduire la religion à la superstition. La religion, de son côté, prête le flanc à la critique par des postures ouvertement irraisonnables, pour ne pas dire déraisonnablement irrationnelles. L'actuelle édite de Kant, pour ce type de conflit toujours prêt de renaître, est de penser la religion selon la raison. Sachant, ne l'oublions pas, que la raison a elle-même été au préalable éduquée par ce même Kant à respecter les conditions de la rationalité scientifique et donc à limiter ses prétentions. Le deuxième scénario est tout différent. Il y est question d'une raison inspirée par la religion et désireuse d'en absorber intégralement la puissance de signifier. Ce scénario est celui de la religion réalisée dans l'histoire de la raison. Au premier abord, la philosophie de Kant se trouve automatiquement absorbée par cette idée d'une révélation religieuse entièrement rationalisée et, oserait-on dire, entièrement digérée par l'histoire du savoir. Eh bien, le kantisme résiste pourtant à cet assaut qui lui a été postérieur. Il résiste parce qu'il continue à penser l'homme tel qu'il est, et au lieu de regarder l'histoire qu'il a déjà faite, il regarde l'histoire comme une tâche à réaliser et qui ouvre à la raison, aussi bien qu'à la religion, le chemin de l'espérance. Le troisième scénario est contemporain. C'est celui de la raison réduite à l'impuissance par la religion. Une religiosité conquérante déclare la guerre à la raison pour imposer une domination sans obstacle. Situation inouïe, puisque la raison aussi bien que la religion s'efforce de combattre cet obscurantisme sans scrupules qui a fait ouvertement de la terreur la stratégie de sa réussite. Le drame de la guerre de la religion contre la raison nous reconduira inévitablement à Kant. En effet, un dialogue entre raison et religion peut-il être autre chose qu'un vœu pieux quand on est en état de subir la violence religieuse ? La religion, dans les limites de la simple raison que Laurent Gallois vient de remettre à neuf, a ouvert un chemin. Tout le monde, ou presque, sait que Kant a fondé la rationalité scientifique et la rationalité morale. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a aussi inauguré l'idée de rationalité symbolique. C'est une autre compétence de la raison. Non pas la raison qui connaît, non pas la raison qui décide, mais la raison qui comprend. Or, quand il s'agit de comprendre, exclure ne sert à rien, condamner ne sert pas davantage. Mais traduire devient essentiel. Ce qui est irrationnel pour la pensée scientifique, j'en comprends la signification symbolique. Parce que la religion dit métaphoriquement des choses qui nous dépassent, mais qui nous inspirent. Ces quatre scénarios seront évoqués de manière volontairement simplifiée pour mieux en faire les ressortir les enjeux qui sont liés bien sûr à des événements récents, des événements qui nous mettent face à un type de fracture entre raison et religion qui non seulement nous plonge dans l'inquiétude, mais renouvelle très sérieusement le besoin d'analyse critique. Alors, allons-y. Le premier scénario est celui de la guerre menée par la raison contre la religion. Il faut reconnaître que la simplification en est facile, parce que la raison se simplifie elle-même autant que la religion quand elle n'en attaque que la caricature. Il faut bien dire aussi que la religion suscite l'agacement quand elle ne fait aucun cas de nos intelligences critiques. Affirmer, comme on l'a fait jadis, qu'une femme peut choisir le diable comme partenaire sexuel et la condamner de ce fait comme sorcière, nous paraît aujourd'hui un irrationnel archaïque. Il n'empêche, l'imam de Brest s'est récemment rendu célèbre pour avoir affirmé qu'écouter de la musique pouvait nous transformer en singes ou en cochons. Jouons alors le rôle de la raison qui prétend nous délivrer de manière définitive des erreurs et des illusions qu'elle impute à la religion. La stratégie rationnelle est simple. Réduire la religion au plus bas degré de l'irrationalité. Qu'est-ce que le sacré ? Une superstition. Qu'est-ce qu'un mystère ? Une mystification. Qu'est-ce que l'amour ? Une aliénation. La raison va évidemment gagner la partie en faisant triompher l'intelligence instrumentale, car elle sait répondre à la question « la religion, à quoi ça sert ?» Et les réponses sont variées et toutes connues. La religion, c'est l'opium du peuple. La religion, c'est une névrose obsessionnelle. Le problème de cette stratégie est que la raison détruit toute la religion pour supprimer l'un de ses vices. C'est comme se servir d'un canon pour tuer un essaim d'abeilles. Voilà une bonne raison de revenir à Kant, car la religion, dans les limites de la simple raison, ne tombe pas dans ce piège. Ce n'est pas de la superstition que Kant parle, et cet ouvrage, mais du caractère indéracinable du mal qui est commis par les hommes. Or, le problème du mal interpelle autant la raison que la religion. Par exemple, quand il s'agit de comprendre l'horreur des crimes politiques du XXe siècle, la raison doit bien reconnaître qu'elle n'a pas encore trouvé une explication qui soit sinon rationnelle, du moins raisonnable. C'est pourtant dans l'être rationnel humain que Kant situe la racine du mal, et il découvre ainsi une parenté entre la vision religieuse et la vision philosophique. Dans le péché, langage religieux, comme dans le crime, langage juridique, c'est toujours la liberté humaine qui choisit d'agir contre le bien, par intérêt ou par méchanceté. Ainsi, raison et religion peuvent parfaitement se comprendre sur le terrain de la morale, et on pense ici inévitablement au dialogue, par exemple, entre Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI, et le philosophe Habermas. Mais alors, ne peut-on aller plus loin sur ce terrain de l'entente mutuelle entre raison et religion? C'est notre deuxième scénario. Un scénario hegelien que l'on dira dans une version tellement simplifiée qu'on peut la résumer en une phrase. La religion inspire la raison, laquelle va aspirer la religion, c'est-à-dire l'absorber. La religion inspire la raison lorsque Hegel, alors jeune théologien, comprend le sacrifice du Christ comme l'expression suprême de la puissance de la vie et aussi comme ce qui illustre en même temps la mission la plus haute de la raison. La raison doit comprendre la réalité en dépassant les limites de l'intelligence ordinaire. L'intelligence, en effet, ne sait pas penser la vie, puisqu'elle décompose la vie pour l'expliquer, et qu'elle ne comprend donc la vie que par la mort, par ce qui tue la vie. Mais la religion, tout au contraire, comprend la vie comme ce qui surmonte la mort. Ainsi que l'a dit la belle formule de Hegel que je vous rappelle, ce n'est pas cette vie qui recule d'horreur devant la mort et se préserve de la destruction, mais la vie qui porte la mort et se maintient dans la mort même, qui est la vie de l'esprit. Citation de Hegel. Cette idée un petit peu mystérieuse peut s'interpréter de façon très banale. Quand un individu fait son testament, il comprend que sa volonté survivra à sa propre mort. Mais cette idée peut aussi se comprendre de manière historique. Cela veut dire alors que l'histoire de l'Europe est tout simplement l'accomplissement de la révélation chrétienne. On dira que notre accès à la démocratie, par exemple, illustre dans l'histoire l'espérance chrétienne. Il est possible de reconnaître à tous les hommes une égale dignité et de leur faire partager l'espoir d'un sort meilleur. Cette manière de voir alimente encore aujourd'hui un certain messianisme moral dans la politique. Mais elle a cependant un défaut tout à fait remarquable. Parce qu'elle arrête l'histoire en la refermant sur son propre accomplissement. Et c'est ce dont a souffert aussi la version matérialiste marxiste du messianisme socialiste. L'histoire s'arrête quand la promesse est accomplie, avec le triomphe de la rationalité scientifique et avec la prise du pouvoir par le prolétariat. On comprend alors que la religion a bel et bien inspiré la raison, mais que la raison, en retour, a dévoré la religion, qu'elle a aboli la religion sous prétexte de l'accomplir. C'est dans un autre langage que nous disons la même chose aujourd'hui, quand on avance, par exemple, que le christianisme est la religion qui fait sortir les Européens de la religion, la religion qui se laisse laïciser, et que la politique accomplit dans la forme de l'État-providence et de l'assistance. La laïcisation du christianisme, alors, n'aurait-elle été que la transformation de la religion chrétienne en civilisation chrétienne? Nietzsche avait adopté cette hypothèse pour faire de la Révolution française et du socialisme les enfants du christianisme. Mais c'est un autre sujet pour un autre débat. Revenons plutôt à Kant. Là encore, un moment kantien de réflexion permet de sortir de l'impasse qui consiste à limiter l'histoire à un seul de ses résultats. Même si la philosophie kantienne fait bien moins rêver que la splendide odyssée de l'histoire accomplie comme réconciliation du message religieux et de la compétence rationnelle. Aux yeux de Kant, au contraire, l'histoire humaine ne se clôture sur aucune eschatologie. Elle est inachevable. Et elle est appelée à demeurer une histoire de l'effort, car elle n'est rien d'autre qu'une éducation collective qui élève le genre humain à la hauteur de la responsabilité de son destin. L'humanité n'est pas une chose qui se fabrique socialement, c'est une vocation. Et rien ne peut épuiser une vocation parce que ce n'est pas une chose, mais une signification. Aussi, le perfectionnement de l'espèce humaine est-il une tâche qui n'aura jamais de fin, car il développe tous les possibles humains en forçant notre espèce à s'inventer en permanence pour continuer d'exister. L'humanité n'est pas le résultat de l'histoire, elle en est le but. Supposons maintenant que la religion reprenne entièrement à son compte le prophétisme messianique pour en faire l'unique avenir de l'histoire mondiale. Supposons que la fin de l'histoire réclame l'abolition de l'humanisme, de la science et de la raison pour être le triomphe final et définitif du divin sur la terre comme au ciel. Ce troisième scénario, celui de la raison vaincue par la religion, est le défi qui s'est imposé à notre temps. Chacun reconnaît qu'il s'agit d'une folie et d'un usage pervers de la religion, et les religieux statutaires, pour parler comme Kant, ne se font pas faute de dénoncer cet accaparement comme une imposture. Il n'empêche, la raison se montre jusqu'ici incapable de relever ce défi. Le faux culte, en effet, pour parler encore le langage kantien, sait réduire la raison à l'impuissance. Il use de deux méthodes quasi invincibles, un discours infalsifiable et un imaginaire qui met en échec la réalité elle-même. Il n'est pas difficile de devenir fanatique. Il suffit d'avoir toujours raison. Et surtout d'avoir raison contre la raison elle-même. Car la raison discute, examine, critique et interroge. Au nom du progrès, elle désacralise et elle détruit le socle de convictions immémoriales. Elle est donc par essence incroyante, hérétique, impie et asociale. Mais la raison peut être déroutée par un discours extrémiste, car elle est incapable de résister à un dogme qui s'est immunisé contre tout ce qui peut le contredire et qui s'est ainsi rendu infalsifiable. C'est ainsi que le fanatisme invente aujourd'hui la raison complotiste pour réduire la rationalité à l'impuissance. Argumenter contre le dogme, aussi invraisemblable qu'il soit, c'est manifester de l'hostilité envers lui, témoigner du ressentiment, exprimer de la haine sociale et révéler une totale incapacité de comprendre la différence de l'autre. Et puisque discuter, c'est prouver que la raison est la servante d'un complot destiné à détruire la vraie foi, celle-ci s'autorise, en manière de représailles, à user de toutes les ruses et de toutes les violences contre ce qui se prétend irrationnel. La situation est donc dramatique. Si raisonner, c'est haïr, si débattre, c'est exclure, et si argumenter, c'est mépriser, la raison perd la partie. Ainsi, le dogmatique radicalisé pourra combattre la raison d'autant plus sûrement que son prophétisme est un imaginaire indifférent à la réalité au point de la détruire pour lui substituer l'illusion la plus satisfaisante. L'union merveilleuse de la vérité et de la puissance. Le règne sans partage d'un unique peuple, d'un unique langage et d'une unique vertu. C'est un rêve populaire en politique parce qu'il suffit de croire que détruire les divisions suffit à engendrer la paix sociale. C'est ce qui fait depuis toujours l'attractivité du rêve totalitaire, car c'est son holisme qui plaît, c'est-à-dire le type de société qui réalise le plus complètement l'intégration politique par absorption de l'individu dans le tout. À ce point de la réflexion, il peut sembler parfaitement anachronique de chercher dans le kantisme une riposte à ce type de défi contemporain. C'est donc avec la plus grande circonspection que l'on utilisera l'un des ressorts de l'approche philosophique kantienne de la religion. À une religiosité fanatisée, reprocher sa violence terroriste ne sert de rien. Récuser son appétit de domination et son goût pour l'asservissement d'autrui ne sert pas davantage, puisque la radicalité revendique délibérément et ostentatoirement ses pratiques de pouvoir. En revanche, la confondre pour impiété et pour impureté, voilà qui porte atteinte à la justification ultime de sa dynamique criminelle. Et c'est un point que la fausse religiosité ne peut pas contredire, puisqu'elle refuse tout recours à la raison. Le fanatique, en effet, parce qu'il récuse toute sincérité rationnelle et toute foi dans la raison, ne peut qu'entériner l'accusation de pervertir la religion. son rejet de la religion est en même temps la preuve de l'irrationalité originaire et persistante de son propre choix. À l'extrême opposé du dogmatique radicalisé, se situe le religieux qui admet l'intelligibilité rationnelle de la religion. Accepter le regard d'une philosophie de la religion ne revient nullement à soumettre la religion à la philosophie. C'est tout au contraire une attitude qui confirme une authenticité religieuse par une indubitabilité morale. Ce qui revient à dire qu'une religion véritable, orientée vers une communauté humaine, solidarisée par des règles de vertu, repose originairement sur des consciences critiques. Tout règne, tout comme la raison, pardon, la religion doit continuellement déjouer la tentation de rester mineure, infantile et irresponsable. Et c'est là l'une des significations fortes du traitement kantien de la religion et qui prend la forme d'un étonnant paradoxe. Parce que la religion peut précisément tenter les âmes troubles, alimenter le réconfort à bon compte, donner satisfaction aux amateurs d'aliénation, favoriser la paresse intellectuelle et la lâcheté morale. Il est de la dernière importance qu'elle s'impose à elle-même l'épreuve de la pureté doctrinale qui passe par l'examen rationnel. L'originalité particulière du kantisme est ainsi de comprendre la raison comme ce qui empêche la raison de tomber, la religion de tomber dans l'illusion, la superstition et la pensée magique. Il fait de la religion véritable, de la religion authentique, une dynamique morale en lutte contre ses propres dérives. Rien n'est plus à craindre dans une religion aux yeux de Kant que la tentation de soumettre les individus, d'abolir leur raison et leur liberté, de céder à la peur de puissances occultes et de conforter les pouvoirs qui réduisent la religion à un simple instrument idéologique de domination. Un mot pour conclure. On est aux antipodes d'un traitement pseudo-scientifique de la religion qui la condamne à disparaître au risque qu'elle se trouve remplacée par des idolâtries rétrogrades, technocratiques, consuméristes ou nihilistes. L'intelligibilité rationnelle, de la religion n'est possible que par une raison capable d'interprétation. Car la signification de la religion ne relève pas des sciences de la nature. Et je dirais même que les sciences sociales peuvent fort bien l'expliquer sans la comprendre. La religion parle par des symboles qui sont les expressions d'un sens qui agit lui-même par la voie de l'inspiration. Et un symbole, explique Kant, est ce qui donne à penser au-delà de ce qui peut être scientifiquement connu. Ainsi, la raison qui traduit les symboles de la religion contribue à en communiquer l'inspiration tout en la préservant de la dérive dans l'idéologie religieuse. Ce qui conduit à une double conclusion. La religion est, dans les limites de la raison, une activité de désaliénation. Tout comme, inversement, la vraie raison n'est pas celle qui détruit la foi, mais celle qui témoigne de sa liberté. Merci.
Un très grand merci pour votre exposé si clair et si lumineux qui nous permet de relire la postérité de la religion dans les limites de la simple raison et surtout de voir en quoi peut-être il peut ouvrir pour aujourd'hui, enfin l'ouvrage peut ouvrir pour aujourd'hui des pistes. Alors que, comme vous l'avez très bien montré dans votre troisième scénario, on pourrait penser que la raison est tout à fait impuissante face au terrorisme que suscite une certaine forme de religion. Très grand merci. Je donne sans plus tarder, mais bien évidemment nous pourrons ensuite échanger avec Monique Castillo, mais je donne sans plus tarder la parole à Raphaël Ersam, que je vais présenter en quelques mots, et il me corrigera si par hasard je fais erreur. Normalien, agrégé de philosophie, docteur de Paris-Sorbonne, il est aujourd'hui maître de conférences à Paris 4. Il m'a semblé aussi voir qu'il avait passé au moins un an à l'université de Cambridge et un semestre à New York, si j'ai bien compris. Sa thèse porte sur le problème du langage chez Kant, une thèse préparée sous la direction de Jocelyn Benoît et soutenue à Paris-Sorbonne en 2012, et dont on espère l'apparition très prochaine aux éditions Vrin. Raphaël Ersam a d'autre part de multiples contributions parues dans des issues de congrès de la Société d'études kantiennes, des articles dans des revues diverses, mais je vous laisse aller voir son site pour voir les titres de ses articles. Je signale aussi qu'il est traducteur, et je ne retiens ici qu'une des traductions, celle de Putnam, une partie du livre de Putnam, d'après ce que j'ai vu, le chapitre 6, si je me souviens bien. Mais je lui donne sans plus tarder la parole et je le remercie d'être là.
Merci beaucoup, Madame Baucher, et merci pour cette invitation qui m'honore tout particulièrement. Alors, comme le temps qui nous est alloué est relativement court, je vais essayer de me concentrer sur les principaux problèmes qui vont avec la question qui nous est proposée. Raison et religion font-elles bon ménage ? En essayant de voir ce qu'il y a d'original ou de particulier dans les éléments apportés par Kant pour y répondre. Quand on se demande si raison et religion font bon ménage, il me semble qu'il y a au moins trois niveaux où la question a un sens. On peut se demander si les êtres divins auxquels on croit peuvent être acceptés d'un point de vue rationnel. Est-ce qu'il est rationnel ou raisonnable de penser qu'il existe un Dieu, un créateur du monde, un être éternel tout-puissant, parfaitement juste, hein, bienveillant, ou une pluralité de divinités? Bon. À un deuxième niveau, la religion recouvre aussi une somme de croyances sur les rapports entre le divin et les hommes, des croyances qui portent en quelque sorte sur les événements historiques de liaison entre le divin et l'humain. Hein. Donc on peut se demander s'il y a quelque chose de rationnel dans la croyance en la révélation, par exemple, ou est-ce que l'élection du peuple d'Abraham par Dieu présente une dimension rationnelle ou au contraire irrationnelle. Et à un troisième niveau, il n'est pas de religion qui ne comporte également des éléments concernant la volonté de Dieu, ou ce qui est supposé être bon ou mauvais au regard de la ou des divinités. Et donc la question du rapport entre raison et religion concerne également la question du bien et du mal telle qu'elle est présentée ou abordée dans les religions. Ensuite, pour éclairer aussi le sens initial de cette question, je pense bon de revenir sur ce que rationalité veut dire, ou rationnel ou irrationnel. Donc pour les trois niveaux que j'ai distingués, se demander si religion et raison font bon ménage, cela peut être voir si les différents éléments d'une croyance religieuse sont compatibles les uns avec les autres. En d'autres termes, est-ce qu'il existe une forme de cohérence logique entre les différents ciments d'une même croyance ? Et je vais essayer de montrer comment, en fait, certaines des critiques ou des évaluations que Kant présente de la religion sont une manière de mettre la religion face à ses difficultés logiques. Donc la raison, ça peut signifier la rationalité logique. Et une critique de la religion de ce point de vue-là serait de montrer que certaines croyances religieuses sont absurdes. Pas fausses, mais absurdes, c'est-à-dire auto-contradictoires. Je donnerai des exemples. À un deuxième niveau, la raison peut renvoyer à la somme des connaissances positives dont nous disposons, des connaissances physiques, biologiques, psychologiques, historiques, etc. Et on peut éventuellement aborder la religion à l'aune des connaissances positives dont on dispose. Et je proposerai de nommer ça, dans le cadre de cet exposé, la rationalité théorique. Même si la rationalité logique, évidemment, peut en faire partie, mais enfin voilà, pour des raisons de commodité terminologique. Et enfin, un troisième et dernier niveau, qui est certainement celui qui a le plus intéressé Kant, et c'est ce que donne le plus à voir l'ouvrage, la religion dans les limites de la simple raison, la raison peut désigner notre pouvoir de compréhension du bien et du mal. Ce que Kant nomme la rationalité pratique, qui est la conscience de nos devoirs, la conscience de ce que l'on doit faire ou de ce qu'il est absolument interdit de faire. Et il existe donc enfin aussi un type de relation entre raison et religion qui suppose que l'on aborde les commandements supposés divins présentés dans un texte sacré à la lumière de ce que l'on sait par soi-même être bon ou mauvais, indépendamment du texte. Alors, maintenant que les sens possibles de la question me paraissent plus clairs, je vais essayer de répondre un petit peu davantage et surtout de voir ce que Kant lui-même apporte. Alors, il me semble, et c'est encore une sorte de dernier préalable, que la question qui est posée aujourd'hui a une urgence absolue, mais pas simplement en raison du contexte que nous avons à affronter. Disons tout simplement que je vais adopter volontairement le point de vue de quelqu'un qui serait religieux. Alors je ne vais pas essayer de m'engager ou de faire ici profession de foi ou profession d'athéisme. Je vais dire simplement du point de vue d'une personne religieuse, le fait de poser la question de la raison à sa propre croyance me paraît absolument capital. Je suis de ce point de vue-là une ligne kantienne. Qu'est-ce qui fait que le contenu de mes croyances constitue authentiquement une religion et pas simplement des lubies, ou pas simplement, en fait, quelque chose auquel je suis attaché parce que mes parents, mes ancêtres ont bien voulu y croire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une valeur dans ce que je crois et que je ne crois pas simplement à une somme d'aberrations qui ont été sanctionnées par le temps? Rien qu'à ce niveau-là, le fait d'essayer d'évaluer rationnellement la croyance me paraît une exigence indépassable. Alors, donc, pour moi, le problème n'est pas tellement de savoir si, disons, empiriquement, dans l'expérience, raison et religion font bon ménage, parce que, disons, si on jette un coup d'œil à l'histoire, bien sûr, on pourra mentionner toujours un Thomas d'Aquin, un Augustin d'Hippone, un Averroès, un Avicenne, et des grandes figures qui ont fait en sorte que religion et raison fassent bon ménage. Mais, enfin, il est clair que dans la plupart des pays, le fait qu'elles fassent bon ménage, c'est pas du tout le cas. Le problème, pour moi, est plus de me situer à un niveau normatif. Il est absolument capital que religion et raison s'efforcent de faire bon ménage et qu'on agisse pour qu'elles fassent le meilleur ménage possible. Et donc, à cet égard, il s'agit de poser effectivement à la religion, mais aussi de l'intérieur de la religion elle-même, la question aussi de l'intérêt de l'approche rationnelle. Alors, je vais commencer par la rationalité logique. En suivant ici une ligne en fait qui a été déjà amorcée par Bayle et par Rousseau, mais qui est également présente parfois chez Kant. Et ça a un potentiel évidemment tout à fait corrosif parfois. Alors, dans la plupart des monothéismes, on croit que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, et donc le créateur de tous les hommes. On croit également qu'il est souverainement juste et tout-puissant. Et pourtant, dans la plupart des monothéismes, on estime que Dieu a révélé des commandements essentiels dans une langue particulière, à un moment donné de l'histoire, dans une zone géographique originale. Alors, si par exemple, on pense que des commandements essentiels sont formulés à l'intérieur du Coran ou dans la Torah, ou que des commandements essentiels sont formulés par Jésus et ont été recueillis par les apôtres. on estime à ce moment-là que des vérités fondamentales ont été réservées par Dieu à certaines de ses créatures. On estime que le salut ou la damnation sont l'effet du hasard ou du bon plaisir de Dieu et qu'il n'a pas traité de manière égale toutes ses créatures. Il y a là une difficulté. Il y a là en tout cas une très sérieuse difficulté. Rousseau et Bayle, présentés sous forme de dilemme, sous forme ou plutôt d'alternative, la difficulté est suivante. Soit Dieu est bien tout-puissant, créateur de tous les hommes et bon, et les seules vérités religieuses fondamentales sont celles que l'on peut connaître par sa raison. Par sa raison seule, et pas par une révélation. Soit les vérités religieuses fondamentales comprennent les vérités révélées, et Dieu n'est pas tout-puissant, ou il est injuste, il n'est pas bon. Il a préféré certaines de ses créatures aux autres. Et s'il n'y avait qu'un seul homme en situation de ne pas connaître des vérités fondamentales, l'argument porterait. Kant est l'héritier de Rousseau et de Bayle à cet égard, parce qu'il estime que le cœur vivant des religions, de toutes les religions pourvues de valeur en quelque sorte, c'est ce qu'il nomme la pure foi rationnelle, c'est-à-dire des croyances qui sont la conséquence ou la suite de ce que l'on peut comprendre par sa raison seule. D'une certaine manière, les révélations soit s'accordent, s'harmonisent ou sont compatibles avec la raison, soit ne le sont pas et sont caduques. Ce qu'il est important de voir, avec l'argument logique que j'ai formulé, c'est que pour le croyant lui-même, le fait que la révélation ait ce statut est inévitable, s'il veut bien y réfléchir. Le deuxième type donc d'argument ou d'approche rationnelle de la religion consiste donc à mettre en regard le contenu de certaines croyances avec le corps des connaissances positives dont nous disposons. Et Kant ici, disons, possède une double originalité, une double force. Et ce que je vais mentionner déborde le cadre strict de la religion dans les limites de la simple raison, puisque je vais aussi mentionner la critique de la raison pure. On peut croire, dans certaines formes de religion, aux miracles. Et ces miracles peuvent être des guérisons spectaculaires, ou des formes de résurrection, ou la transformation de pain ou en d'autres corps, bon, il y a un certain nombre de croyances à des miracles. Alors, il existe évidemment une critique des miracles qui est d'ordre logique, qui est de dire si Dieu est tout-puissant et qu'il a voulu une nature la plus parfaite possible, le fait qu'il intervienne ponctuellement pour la corriger, c'est impossible, parce que ça signifierait que sa création était initialement défectueuse. On ne peut pas penser que Dieu est tout-puissant et qui corrige sa création et qui l'amende. Donc il y a une critique logique qui existe. Mais disons, la critique plus positive que l'on trouve chez Kant à la suite de Hume, et donc qui n'est pas la critique malbranchiste que je viens d'évoquer, c'est que croire au miracle, tout simplement, contredit tout ce que notre raison théorique nous commande d'accepter pour que nous puissions agir et connaître le monde. Donc, en même temps, la raison théorique se doit d'indiquer en permanence ses propres limites. Et là, il y a quelque chose chez Kant de particulièrement remarquable, et, qui est qu'il ne confond pas l'irrationnel et le suprarationnel. En quelque sorte. C'est-à-dire que nos connaissances ne nous permettent pas de savoir si Dieu existe ou s'il n'existe pas. elles ne nous permettent pas de savoir si l'âme est immortelle ou si elle ne l'est pas. Et elles ne nous permettent pas de savoir hein, quelle est, dans le détail, la volonté de Dieu hors des commandements moraux fondamentaux que tout homme doit pouvoir trouver en son cœur. Dans cette mesure, Kant nous permet de voir que la religion, lorsqu'elle n'est pas irrationnelle, lorsqu'elle ne contredit pas la connaissance positive, ou lorsqu'elle ne s'auto-contredit pas, ou lorsqu'elle ne contredit pas la connaissance morale, la religion, lorsqu'elle est donc suprarationnelle, est admissible, mais fait l'objet d'un espoir et non d'une connaissance. Ce résultat, qui est le fruit de l'approche de la religion par la raison théorique, doit avoir également pour conséquence de détacher pour toujours religion et violence. Comment et pourquoi défendrait-on par la violence ce qui ne fait pas l'objet d'un savoir, ce qui est simplement l'objet d'une espérance? Ce en quoi on espère, on ne peut pas l'imposer par la violence. Généralement, effectivement, il y a dans le fanatisme, au cœur du fanatisme, une prétention à présenter comme une certitude absolue ce qui ne peut pas relever de la connaissance. Et donc, à cet égard, le fait d'aborder aussi avec Kant la religion par le biais de la raison théorique me semble avoir un double effet. À la fois un effet critique, on peut épurer, disons, la religion de certains contenus, certains ont été mentionnés par Monique Castillo, et en même temps, ça restitue aussi à la religion sa situation éthique, et d'une certaine manière aussi sa beauté, le fait qu'elle est l'objet d'une espérance, et pas d'un savoir. Le dernier niveau, donc, du rapport entre raison et religion, est celui qui oppose la rationalité pratique à des commandements sur ce qu'il conviendrait de faire ou de ne pas faire, et qu'on trouverait donc à l'intérieur des textes religieux. Alors, par rationalité pratique, à la suite de Kant, donc j'entends, je le redis, la connaissance de ce que l'on doit faire ou de ce qui est interdit, et non la rationalité instrumentale. Je pense qu'il y a peu d'importance lorsqu'il s'agit d'interroger les religions. Alors ici, Kant a eu, l'un des premiers, une position tout à fait remarquable. Sa thèse est que lorsqu'on lit un texte religieux, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on lit le Coran, on peut, d'une certaine manière, avec certitude aussi, savoir quels seraient les passages qui expriment une vérité divine et quels sont les passages qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils contredisent directement ce que l'on sait être le bien. Je vais lire deux passages de Kant particulièrement frappants où, par exemple, il est célèbre dans la religion pour dans les limites de la simple raison, pour avoir dit que l'épisode où Dieu commande à Abraham de sacrifier Isaac ne saurait être reconnu comme un passage authentique. Parce que on ne peut pas commander de tuer un enfant innocent. Alors je lis. Relativement au miracle divin, la raison peut avoir au moins un indice négatif pour son usage. C'est-à-dire, si on représente quelque chose comme ordonné par Dieu, dans une manifestation phénoménale de ce dernier, et que cette chose contredit néanmoins directement la moralité, avec toute l'apparence d'un miracle divin, par exemple si on ordonne à un père qu'il doive tuer son fils entièrement innocent, pour autant que le père se sache, alors on doit refuser cette représentation. Je lis un autre passage qui est tiré cette fois-ci du conflit des facultés, également de Kant. Peut servir d'exemple le mythe du sacrifice qu'Abraham, sur ordre divin, voulut offrir en immolant et en brûlant son fils unique. Le pauvre enfant apporta même à cette fin, sans le savoir, le bois. Abraham aurait dû répondre à cette prétendue voix divine que je ne doive pas tuer mon bon fils, c'est parfaitement sûr. Mais toi qui m'apparais, que tu sois Dieu, Je n'en suis pas sûr. Et je ne peux pas non plus devenir sûr, quand bien même cette voix tomberait retentissante du ciel visible. Et alors ici, évidemment, je ne fais que qu'esquisser des voies d'approche, mais c'est celle, d'une certaine manière, qui est la plus développée par Kant dans l'ouvrage que Laurent Gallois a magnifiquement retraduit. Disons, Kant se propose de voir à la fois ce qui est moralement aberrant dans les religions, sachant que la morale est la morale telle qu'on peut la comprendre rationnellement, c'est-à-dire telle que n'importe quel homme doit pouvoir la comprendre par ses seules ressources, indépendamment des textes, des enseignements, des prophètes, des imams, des prêtres, des rabbins, etc., telle qu'on peut la comprendre par soi. La morale est donc ce qui peut seul nous reconduire à ce qui peut constituer le noyau des religions. Alors, le vocabulaire du noyau, que j'emprunte ici, suggère que j'inscris Kant dans la tradition des religions naturelles, et Laurent Gallois d'ailleurs, dans son glossaire, cite aussi des manuscrits de Kant sur la religion où Kant emploie lui-même l'expression. Il présente aussi sa théorie comme une théorie de la religion naturelle. C'est dire que dans ce que l'on nomme les religions, c'est-à-dire dans ce que on peut nommer le catholicisme ou l'islam ou le judaïsme, chaque croyant se trouve dans une posture vis-à-vis de ce dont il a hérité, où il est capital que grâce aux instruments de la critique rationnelle, il s'efforce en permanence de voir ce qui relève de la tradition, du hasard, d'une formation historique originale, et ce qui relève, au contraire, de ce que tout homme pourrait reconnaître comme l'objet de son espoir. Je vous remercie.
Un très grand merci pour votre exposé qui met bien en perspective religion et rationalité, la rationalité dans ses trois formes, comme vous l'avez bien entendu, rationalité logique, rationalité théorique, au sens que vous avez donné à ce terme ici, et puis rationalité pratique ou morale. Je relèverai notamment une phrase qui me semble, enfin, une idée que vous avez énoncée et qui me semble intéressante à retenir aujourd'hui, comment défendre par la violence ce qui n'est pas l'objet d'un savoir, mais d'une espérance. Et il est évident qu'il y a dans le fanatisme une prétention au savoir, mais ce n'est qu'une piste parmi beaucoup d'autres. Et je suis certaine que Laurent Gallois va élargir la réponse, bien évidemment, à nos deux intervenants. Je voudrais d'abord en quelques mots le présenter, même si dans cette maison ce n'est pas très utile, mais je suppose qu'ici tout le monde ne le connaît pas. Donc Laurent Gallois est professeur de philosophie au Centre Sèvres, rédacteur en chef de la revue Archives de philosophie et membre de la Société d'études kantiennes de langue française. Bon, il a écrit notamment, enfin sa thèse portait sur le souverain bien chez Kant et elle est publiée chez Vrin, elle a été publiée chez Vrin en 2008. Il a aussi traduit Hegel, La raison dans l'histoire, introduction aux leçons sur la philosophie de l'histoire. Cette traduction est publiée au Seuil en 2011. Et donc aujourd'hui, il nous livre cette nouvelle traduction de la religion dans les limites de la simple raison. Je lui donne donc sans plus tarder la parole pour nous présenter un peu ce qui a été son but, son souci dans cette nouvelle traduction, et en même temps pour commencer à répondre à nos deux intervenants. D'avance, merci.
Merci, j'avais préparé un texte, mais j'y renonce. D'abord, ce qui n'est pas tout à fait dans mes habitudes, remercier Bonnie Castillo et Raphaël Ersan d'être venus, parce qu'ils représentent à mes yeux de très grandes figures de kantiens, je dirais, de part et d'autre de la génération à laquelle j'appartiens. L'une, Bonnie Castillo, pour avoir fait partie de ces enseignants-chercheurs qui ont tenu très fermement à l'unité de la raison. Quand cette pauvre raison chez Kant est malmenée, je dirais écartelée dans différents usages dans lesquels on veut l'enfermer, sans compter aussi les ouvertures sur la philosophie politique et les travaux qui s'annoncent comme publication aussi en éthique chez Vrin. Et puis Raphaël Hersham, parce que ça n'a pas été souligné, il a ouvert, je crois, dans sa thèse remarquable, un chapitre inédit des recherches kantiennes sur la philosophie du langage et qui ouvre très clairement, je dirais, de nouvelles pages de recherche. Et puis je remercie Isabelle Bauchet pour son soutien et faisant au jour le jour avec moi, qui n'est pas forcément un caractère très facile. Donc je ne renonce à mon papier et je vais d'abord, reprendre quelques points de ce que j'ai entendu des deux interventions, à savoir ces quatre attitudes, on pourrait dire, ces quatre visages du traitement de la raison, la raison en guerre contre la religion, une double absorption, la religion en guerre contre la raison, et enfin la religion morale à la manière kantienne. Et puis peut-être une question qui m'intéresse énormément, qu'est-ce qui fait que le contenu de nos croyances relève d'une véritable religion. Je dois reconnaître que, en travaillant cette traduction de la religion dans l'énigme de la simple raison, plusieurs affaires m'y ont poussé. La première, parce que, et n'entendez surtout pas une critique que je vais faire des traductions existantes, avant celle-ci, parce qu'une traduction a le mérite d'exister, d'avoir été faite et qu'elle défriche des terrains. La première, c'est qu'il me semblait que les traductions existantes ne faisaient pas complètement droit au lexique kantien et ne rendaient pas suffisamment compte de l'appartenance de la religion dans les limites de la simple raison à toute l'œuvre critique kantienne. C'est un peu technique ce que je vous dis là, mais quand on lit le texte allemand, je dirais, cette appartenance saute quasiment aux yeux. C'est-à-dire, la religion dans les limites de la simple raison n'est pas une œuvre qui se promène à part dans l'œuvre kantienne. Elle appartient vraiment au déploiement de l'œuvre kantienne. Et Raphaël Hersham l'a rappelé, ça commence dès la critique de la raison pure. Ça commence dès la critique de la raison pure. On sait qu'on ne peut pas avoir de savoir sur Dieu. Dieu n'est pas pour autant un objet perdu, il reste ce qui intéresse, on pourrait quasi dire obsessionnellement et en même temps désespérément, une raison qui est chez Kant une raison vivante, et Dieu revient quand il s'agit de traiter de l'espérance de l'homme, parce que c'est un autre aspect de la philosophie kantienne qui a été rappelé aussi par Raphaël et par Monique Castillo, eh bien l'espérance intéresse la raison chez Kant. Le programme kantien de la philosophie, on le sait, est structuré autour de trois questions. Que puis-je savoir ? Le savoir est limité. La raison apprend à limiter les prétentions de son propre savoir. Dieu n'est pas un objet de savoir. Que dois-je faire ? Regarde la philosophie pratique, au sens large, en ses doubles aspects, éthique et juridique. Et que m'est-il permis d'espérer ? Ouvre très exactement sur la religion, une religion morale, comme il a été dit. Religion morale, ça ne veut pas dire que cette religion indique ce qui doit être moral, ça veut dire que le fondement de cette religion est bien une morale dont la raison se découvre être source des obligations aussi bien éthiques et juridiques. Et ce leitmotiv d'une religion morale, nous le trouvons quasiment régulièrement revenant dans l'œuvre kantienne, jusque dans une de ses dernières œuvres, la métaphysique des mœurs, doctrine de la vertu, où Kant conclut sa doctrine de la vertu sur des développements liés à la religion. Religion dont il reprend, je dirais, dans une brève page de la doctrine de la vertu, le sens latin du terme religio. Religio est, c'est un cas de conscience. Kant citait sans difficulté le De Officiis de Cicéron. Je m'en suis rendu compte en préparant un peu cet après-midi ce que j'allais dire. Donc, et dans le De Officiis de Cicéron, vous avez ces formulations « religio est ». De même, il avait travaillé le De Natura Deorum, on le voit dans le Narlas, enfin les papiers qui traînent, traduit en allemand, où ce fameux « religio est » est associé au Gewissen, c'est-à-dire la conscience morale. Autrement dit, on peut dire que l'essence de la religion, chez Kant, est la conscience morale, conscience qui habite intérieurement l'homme, donc toujours en travail, à disposition de l'homme, mais comme le dit Kant, la conscience morale peut faire beaucoup de bruit pour se faire entendre dans l'intériorité humaine, ça c'est dans la doctrine de la vertu, l'homme trouvera toujours les moyens de ne pas prêter l'oreille à ce que lui dit cette conscience morale. Alors, traduire la religion dans les limites de la simple raison, c'est forcément se heurter à son actualité. Je remercie vraiment, Monique Castillo et Raphaël Ersam, d'avoir pris à bras le corps cette question difficile et d'y avoir répondu chacun à leur manière. L'actualité, évidemment, nous prend de plein front avec ce qui se passe. Mais cette actualité, si vous voulez, si elle pose la question du rapport raison et religion, elle pose aussi, ce qui est une question kantienne, la fonction du politique dans un état de droit dans le rapport à la religion. La fonction du politique dans un état de droit dans son rapport à la religion, c'est aussi ce qui est présent dans la critique, dans la religion, dans les limites de la simple raison. Traduire la religion dans les limites de la simple raison, c'est aussi ne pas le faire qu'à partir de Kant lui-même. Il se trouve que les lectures que je dois faire pour un certain nombre de choses, y compris des enseignements, font que je suis allé du côté de Hegel, Schleiermacher, et d'un fondateur de l'église catholique de Tübingen, Sébastien Drey. Quand la religion dans les limites de la simple raison a été publiée, elle a eu un important retentissement, je dirais, en Allemagne et en particulier, je dirais, chez des théologiens catholiques. Ils ont bien aperçu, ces théologiens catholiques, et en particulier Sébastien Drey en 1819, dans sa brève introduction à l'étude de la théologie, qu'il fallait revenir sur la notion de religion et l'associer à quelque chose qui était de l'ordre d'une prise de conscience. On peut dire qu'il avait lu correctement Kant. Religion et conscience avaient partie liée. Mais en même temps, ces théologiens étaient gênés parce que la religion se réduisait à quelque chose de l'ordre d'une religion morale et d'une certaine manière, ces théologiens avaient aussi lu le conflit des facultés, ce qui était une façon de reléguer la théologie, je dirais, en des lieux où d'une manière ou d'une autre, elle n'avait non pas, j'ai des collègues théologiens dans cette salle, à s'incliner devant la philosophie, mais disons que la philosophie pouvait vraiment, en toute quiétude, fermer l'oreille à certains discours un peu excessifs et explicatifs, trop explicatifs de la théologie. On peut dire que l'accueil de la religion dans les limites de la simple raison a quand même beaucoup gêné, beaucoup perturbé, parce que cette religion morale, telle que Kant la développe, et je serais peut-être moi plus dur, si vous voulez, j'aurais une lecture plus durcie à force de m'être immergé dans ce texte que Monique Castillo et Raphaël Ersam, me semble quand même avoir plusieurs conséquences. La première, par la structure même de la religion dans les limites de la simple raison, on pourrait dire que la première partie de type anthropologique réfléchit sur le mal radical, la deuxième partie serait plutôt de type interprétation christologique biblique, avec la figure de l'idée de l'humanité agréable à Dieu. La troisième partie commence à nous faire entrer dans ces rapports assez complexes entre éthique et juridique, et notamment avec un primat, si vous voulez, de la raison pratique, en tout ce qui regarde les Écritures et aussi les dogmes. Et la quatrième partie, eh bien, nous présente une évolution, si vous voulez, on pourrait dire du corps ecclésial de des églises qui tend, je le crois, alors je ne sais pas si vous serez d'accord, mais je crois que la religion, dans les limites de la simple raison, trace les chemins d'un allègement, si je puis dire, des différentes expressions historiques, on pourrait dire des églises au sens large, une estompe des différentes expressions dogmatiques et, pour ne pas dire, une disparition des différentes hiérarchies ecclésiastiques. On peut dire que d'un point de vue historique, ce qui s'annonce, même si c'est une tâche qui n'est jamais achevée, l'Église de la religion dans les limites de la simple raison est quand même très sérieusement dépossédée, déshabillée, si je puis dire, de ses différentes expressions historiques, puisque cette Église n'est rien d'autre qu'une république universelle sur les lois invisibles de la vertu. Alors on peut se demander quand même cette atténuation de l'expression sensible, je dirais, ne conduit pas finalement à une disparition du fait d'une Église, au sens où nous l'attendons, puisque les lois de la vertu sont invisibles. De même, pour ce qui est de l'expression des dogmes, Raphaël Emerson nous a fait le plaisir de lire un passage du Conflit des facultés, j'en ai quand même préparé un autre que je vous lis, bien connu, des passages des Écritures qui contiennent certains dogmes théoriques déclarés comme sacrés mais dépassant tout concept rationnel, peuvent être interprétés à l'avantage de la raison. Peuvent être, ce n'est même pas une nécessité. La raison pratique pure aura son dernier mot à dire, c'est-à-dire, comme l'a rappelé Raphaël Ersam, reconnaître ce qui fait sens ou non, non pas d'une vérité qui serait posée comme ça à l'extérieur, mais reconnaître ce qui fait signification ou non du point de vue d'une disposition à agir moralement, et seule la raison peut le reconnaître. Monique Castillo et Raphaël Ersam ont suffisamment insisté pour dire que cette raison chez Kant n'est pas une raison toute-puissante, rationaliste, maîtresse du réel, comme de trop nombreux contresens et des lectures rapides donnent à entendre. La raison chez Kant est une raison vivante, et j'oserais dire, je ne sais pas si vous en serez d'accord, fondamentalement impuissante. C'est une raison qui a renoncé à, je dirais, l'exercice de sa toute-puissance dans le domaine de la connaissance. Et quand il s'agit de se faire entendre dans le champ de la conscience, elle sait très bien la raison qu'il y a bien des situations où elle n'y parvient pas. Voilà. Tout concept rationnel peut être apporté à l'avantage de la raison, mais ceux qui contiennent des propositions contraires à la raison pratique doivent l'être. Il passe en revue le dogme de la Trinité et ensuite le dogme de l'incarnation. Je voudrais faire plusieurs remarques à ce sujet, c'est-à-dire... Le sens que l'on doit trouver dans les expressions dogmatiques doit être d'abord un sens de type moral, où la raison pratique pure s'y retrouve. Mais dans le même temps, et c'est ce qui, on peut dire, a tant gêné les théologiens catholiques, Schleiermacher et Hegel, je dirais, un très sérieux problème se pose, c'est-à-dire... Les propositions théologiques dont il est question dans des énoncés dogmatiques ont-elles véritablement une rationalité philosophique? Et corrélativement, le christianisme, en son installation dans une expression positive, avec dogme, hiérarchie, culte, etc., n'aurait-il pas véritablement rompu avec ce qui est pour Kant la religion? Ou bien, est-ce qu'il réalise la religion? Au sens où je l'ai dit tout à l'heure, au sens de cette religio qui est le noyau, donc, comme conscience morale. Alors, je crois que ces questions-là que Kant pose, ou que la lecture du travail de Kant pose, sont pleinement actuelles, sous les modalités que Monique Castillo et Raphaël Ersam l'ont rappelé, soit sous la, je dirais, un jeu de guerre entre raison et religion. Mais alors, il faut s'entendre sur ce qu'est la raison. Si la raison déclare la guerre aux faits religieux, je crois qu'elle se heurte à un mur. En même temps, j'aurais peut-être pas forcément l'optimisme de Monique Castillo. Je crois vraiment que si on, je dirais, on prend la raison séquente et qu'on la tire jusqu'au bout, c'est une raison qui peut être parfois une voix qui crie dans un désert. Voilà. Même si il pense les structures d'un État moderne, même s'il essaye de fonder le droit, il n'empêche, la raison n'a aucun pouvoir de son côté pour essayer de faire passer quelque chose de ce qu'elle sent être de l'ordre d'une religion morale, et que cela relève, et Kant le dit lui-même, d'une révolution dans la manière de penser propre à chacun. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Je crois que par certains aspects, Kant adopte quand même sur la question du fanatisme religieux. Je me suis amusé à regarder cet après-midi où apparaissait la Schwermerei, cette exaltation délirante. Figurez-vous qu'elle apparaît dans un petit opuscule qui s'appelle « Sur les maux de tête ». On peut dire que le fanatisme relève chez Kant d'un mal de tête. Et dans une certaine manière, que le fanatisme relève de maux de tête, ce n'est pas grave pour celui qui en souffre, c'est plus ennuyeux quand il veut faire de ces maux de tête quelque chose de l'ordre de contagieux et qu'il veut contaminer les autres. Il n'empêche qu'il y a chez Kant une position, je crois, assez hobbésienne sur les rapports entre politique et religion, et qu'il y a quand même, on pourrait dire, un devoir imposé au pouvoir politique souverain de, comment dire, ne pas laisser le désordre religieux troubler l'espace public, me semble-t-il. Voilà ce que je peux dire maintenant.
Très grand merci, Laurent. Cette présentation un peu de l'ouvrage et ses réactions à ce que les intervenants précédents ont dit. La parole est donc maintenant donnée à la salle. Enfin, si vous pouvez poser telle ou telle question à nos trois intervenants, bien sûr. Et si quelqu'un veut bien faire passer le micro, merci beaucoup, Brigitte. On vous rembrasse. Si en attendant vous souhaitez réagir, ce serait parfait que vous réagissiez au propos de Laurent. Ce serait excellent de commencer par là, donc si vous le voulez bien.
Oui, non, j'aimerais bien que Laurent précise ce qu'il appelle l'impuissance de la raison, parce que la raison théorique, ça c'est clair. La raison renonce à toute puissance théorique. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'est pas la peine d'attendre de la science qu'elle apporte aux hommes, le bonheur, la joie, etc., ça c'est clair. En revanche, la source de la puissance d'espérer, de vouloir, hein, pas espérer au sens vide, mais vouloir faire, hein, créer de l'avenir. Là, il y a un noyau vraiment, vraiment dur, quoi. Un noyau vraiment, vraiment dur, c'est-à-dire que c'est la source du sens de l'action. C'est dans ce sens-là qu'il y a chez Kant, comme, ben voilà, la source du sens de l'action. Alors, on peut en dériver, on peut en rajouter, on peut, mais comment se passer de ce sens-là de l'action ?
Alors, il ne s'agit pas de se passer de ce sens-là de l'action. Il me semble, je vais repartir sur ce que Kant développe dans la doctrine de la vertu à propos de la conscience morale, c'est-à-dire, qui est une pré-notion, enfin, je veux dire, il la pose comme cela. C'est ce passage où il indique qu'elle peut donner de la voix, ça ne veut pas dire qu'elle arrivera à se faire entendre. Et si on prend par exemple je dirais, la manière dont la morale kantienne, je dirais, se pose avec les différentes formules, c'est certain que la volonté, bon, je ne vais pas entrer dans les détails j'irai du champ lexical au sens large et faculté de désirer. Donc, vouloir, c'est vouloir quelque chose, le désirer, c'est viser quelque chose. Mais, et c'est aussi cette première partie sur le mal radical, si la raison pratique pure ne peut pas être dévoyée ou se dévoyer, il n'empêche que c'est bien l'homme qui pose la loi de son agir. Il peut choisir que la loi de son agir soit une loi morale, mais il peut aussi en même temps choisir de ne pas choisir la loi morale. Et la raison, là, de ce point de vue-là, retombe dans le champ de la raison pratique. Là, elle sera puissante, si je puis dire, mais la raison pratique pure, semble-t-il, elle assiste à ce qui se passe.
Oui, volontiers.
Non, parce que la parole est au public. Oui, tout à fait, mais le mal radical, justement, montre que c'est parce que l'homme va contre la loi, librement contre la loi, c'est précisément parce qu'il peut être monstrueux et qu'on va justement le juger monstrueux, le condamner, être révolté par sa monstruosité, qu'au départ, justement, la raison suppose au minimal une espèce de foi dans la raison. Est-ce que c'est pas très clair, parce que ça va vraiment dans des sous-couches, mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si on désespère de la raison, alors là on devient le tyran qui va discipliner les hommes, puisque de toute façon ils sont nuls. La seule façon de fonctionner avec eux, c'est de les tyranniser. En revanche, parce que l'homme est mauvais, on sait qu'il n'est pas destiné à l'être. Et c'est ce qui fonde cette foi dans la raison, parce que le mot foi dans la raison est fort.
Voilà. Ah oui, il est très fort.
Très fort.
C'est une foi de la raison.
Cette foi dans la raison qui fait qu'on peut espérer jusqu'au bout sauver quelqu'un.
Alors ça passera chez Kant, je pense, dans ses propos de pédagogie. Par exemple, il y a tout un travail, c'est amusant, vous avez un catéchisme moral chez Kant, qui est une véritable éducation, au fond, de la raison, pour qu'elle apprenne à poser ses choix, à se faire entendre. C'est dans la doctrine de la vertu, puis ça revient dans les propos de pédagogie de Kant aussi. Il peut y avoir une manière de préparer l'homme à vivre quelque chose de l'ordre d'une révolution dans sa façon de penser jusqu'à ce point où, alors là pour le coup, la raison pratique pure pourrait être entendue. Il y a une foi dans la raison a foi, mais il n'empêche qu'il y a aussi l'homme de cette raison, avec une anthropologie qui n'indique pas qu'immédiatement le choix de la raison sera fait, me semble-t-il.
J'avais une question, mais je peux la poser après pour donner la parole.
Posez-la, et ensuite.
Bon, d'accord.
Une question à qui ?
Non, à ce moment-là, c'est une question légèrement différente. À Laurent Gallois également. Okay. Oui. En fait, c'est des questions aussi sur les circonstances d'écriture et de réécriture de la religion dans les limites de la simple raison. Le texte a valu à Kant une lettre de menace assez violente de la part du ministre de l'époque. Et disons, voilà, des risques pour sa liberté de publier, voire davantage. Et du coup, en fait, c'est une question d'interprétation, puisque vous suggérez, et Kant le dit effectivement à certains moments, que une humanité qui progresserait, une humanité qui s'améliorerait moralement, serait une humanité qui assisterait au déclin des religions, au déclin en particulier des hiérarchies ecclésiastiques, et en fait au déclin des fois particulières. Et en même temps, ce déclin signifierait le progrès de la religion authentique, c'est-à-dire le progrès de la foi rationnelle pure, celle qui exprime en fait l'espoir qui est censé être commun à tous les hommes. Alors en même temps, ce point que vous retrouvez, il semble quand même assez minoré, ou en tout cas vraiment, on va dire qu'il y a quand même une autre ligne dans la quatrième partie, où Kant semble dire que la disparition
des églises particulières ou des formes de croyances particulières. C'est quelque chose qui est qu'on ne peut que projeter à l'infini, dont on s'approchera, mais qui peut-être ne viendra jamais. Et il n'est pas clair qu'on doive œuvrer activement pour le produire. Alors voilà, telle est la question. Oui. Alors comment comprendre cette tension?
Je ne crois pas que ça passe chez Kant on pourrait dire, une action politique, scientifique, sociologique, pourquoi pas, spirituelle, pire encore. Mais c'est fondamentalement, je crois, si vraiment, pour le coup, les hommes vivent, se mettent à vivre selon cette religion de la raison, cette religion morale, alors les expressions historiques disparaîtront. Mais Kant est quand même un réaliste, je crois. Quand ça se produira, c'est pas demain la veille, parce qu'il y a aussi dans sa philosophie, alors sans entrer dans la technicité de la philosophie, la nécessité d'avoir aussi, un élément sensible. Il n'y a pas de philosophie transcendantale chez Kant, et de philosophie critique tout court, s'il n'y a pas une part de sensible. Voilà. Qui va renvoyer, donc, qui dit sensible dit limite, d'une certaine façon, et renvoie l'homme à l'exercice de sa raison.
J'ai la conviction en fait qu'une des étapes qui est aussi plus suggérée par le livre que clairement affirmée dans ce progrès, c'est l'œcuménisme. C'est-à-dire que il n'y a pas de nécessité qu'il y ait justement un privilège accordé à une représentation religieuse particulière propre à une population, à un lieu. Donc probablement aussi que le développement des communications entre formes de croyances aurait son importance.
Donc, si là, il y a telle ou telle question. Si vous voulez bien poser une question brève.
Merci. J'essaie de m'exprimer moi-même. Pour être croyante, il faut être touchée par Dieu, déjà première chose. Je ne mets pas l'intelligence de M. Kant en cause. Mais sûrement, cet homme-là n'était pas touché par Dieu. Fait qu'on peut dire, j'ai eu la religion. Certes, mais est-ce qu'il est en communication avec Dieu? Ce n'est pas quelque chose de magique, comme avec une image sur la main. C'est quelque chose qui est intérieur. L'intériorité de l'homme est développée. Regardons-nous, par exemple, Edith Stein. Edith Stein était frappée par la nuit par un ouvrage de la grande sainte Avila. Et cette sainte-là l'a touchée, mais Dieu l'a par la sainte l'a touchée. Elle était tellement bouleversée, et voilà, ça donnait des fruits, qu'est-ce qu'on sait après. Mais je veux dire, l'intériorité, vous savez très intéressant ce que vous dites, mais qu'est-ce qu'il faut un dialogue? Qu'est-ce que vous dites? Moi, j'accepte pas tout, certainement, non, mais ici aussi, mais il faut un dialogue. Excusez-moi, là, il faut que je donne, parce que l'autre aussi, il y a sûrement quelque chose à dire. Merci beaucoup.
On peut peut-être prendre l'une ou l'autre question, plusieurs questions, s'il vous plaît. Merci pour la question. Y a-t-il encore une on peut prendre des bouquets de questions, ça me permet peut-être plus de liberté ensuite. S'il y a une autre question, mais nous allons bien sûr la prendre en compte.
On peut commencer.
Merci, oui, Paul Valadier.
Simplement, par rapport à notre contexte actuel, il y a tout de même un grand changement, parce que Kant réfléchit sur un horizon chrétien. Aujourd'hui, c'est un autre monothéisme qui pose problème. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc, la raison à l'intérieur du christianisme connaît ses problèmes. À l'intérieur de l'islam, c'est quand même un autre logiciel. Alors, est-ce qu'on peut... Je ne sais pas, c'est la question que je pose. C'est quand même notre actualité. Ce n'est pas tellement le christianisme aujourd'hui, sauf dans les cas fondamentalistes, extrêmes, protestants ou intégristes ou catholiques. Ce n'est pas tellement cela qui nous fait de très gros problèmes, même si Ratzinger a fait des textes merveilleux là-dessus, et Jean-Paul II aussi. C'est quand même un autre monothéisme.
Merci beaucoup. Alors peut-être que si vous voulez répondre à l'une ou l'autre des questions, Laurent, tu peux peut-être répondre au contexte, à la question précise sur le contexte qui vient de, dans lequel Kant a...
Alors, tout d'abord, le système, même si le mot déplaît, de la philosophie kantienne. Voilà. Il y a trois questions qui, pour Kant, structurent un programme philosophique, dont celui de l'espérance, et Kant a toujours pris au sérieux la question du bonheur de l'homme. Il ne peut pas y avoir de question morale, de réflexion en philosophie morale respectueuse de l'homme et sensée si elle ne traite pas la question du bonheur espéré. Et via les développements de sa philosophie, il la rattache à la religion, et dans les développements de la religion, de la philosophie de Kant, on va à la religion. C'est un premier élément de réponse que je donne. Deuxième élément de réponse, il est peut-être davantage historique. Même si la guerre de 30 ans, 1618-1648, est loin, il ne faut pas sous-estimer le véritable traumatisme que cette guerre fut, c'est opposé les princes luthériens et les princes catholiques, en Allemagne. Quelqu'un comme Leibniz a essayé de poser, on pourrait dire, les conditions d'un dialogue raisonnable sur la question de la religion. Et puis, je dirais, le traité de Westphalie a essayé de maintenir des équilibres entre, je dirais, les princes électeurs catholiques, qui étaient de toute façon plus nombreux que les princes électeurs protestants et luthériens. Donc, il y a, véritablement... un souvenir lié aussi aux excès des faits religieux. Il y a, troisièmement, je crois, sa lecture en allemand des dialogues sur la religion naturelle de Hume, qui de toute façon marque son traitement de la question de Dieu. Et puis, il y a les contextes liés aux rapports compliqués entre philosophie et religion. Il a commencé sa carrière de philosophe sous Frédéric II, qui était, on pourrait dire, un prince éclairé et qui laissait les gens travailler. Et c'est sous le neveu de Frédéric II que des phénomènes de censure et de contrôle des discours universitaires ont été produits. C'est un ensemble, si vous voulez, qui à mon sens, pèse là-dessus. La religion dans les limites de la simple raison est un texte, me semble-t-il, très prudent sur la question du judaïsme, respectueux. On avait parlé une fois, quand on avait mangé ensemble, quand, je crois, une véritable estime et éprouve un profond respect pour quelqu'un comme Mandelson, hein. Je dirais, à toujours regarder avec respect la religion juive. La religion musulmane paraissait plus lointaine, et il faut reconnaître que tant Kant, Hegel ou Montesquieu, dans l'esprit des lois, sont plutôt, très sévères sur ce monothéisme-là. Montesquieu ne fait pas de cadeaux. Hein, le contexte aujourd'hui, il est certain qu'un livre comme La religion dans les limites de la simple raison, je dirais dans certains milieux de fanatisme, serait, dans le meilleur des cas, brûlé, me semble-t-il.
Oui, j'aimerais bien.
Je veux bien répondre au père Valadier. Je ne suis pas d'accord avec votre interprétation, je vais vous dire bien sûr pourquoi, parce que l'avantage de notre religion dans la limite de la simple raison ici, c'est qu'on peut ne pas être d'accord et discuter ensemble de façon constructive. si vous voulez, je crois que la religion peut toujours être tentée de se passer de la raison et de faire en sorte que la raison ait tort. Je prends deux exemples. Quand vous torturez quelqu'un, vous êtes sûr d'avoir un discours infalsifiable, puisque de toute façon, il avouera et vous pourrez le supprimer, légitimement. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, vous ne discutez pas. Donc, la pratique de la torture a été très, très, très utilisée. C'est un mode de discours infalsifiable, d'une certaine façon. Comme aujourd'hui, les religions doivent agir sur les esprits, puisqu'il y a une guerre des symboles, une guerre des signes, une guerre des significations, eh bien, le fait d'inventer la raison complotiste, ça revient exactement au même. C'est-à-dire que la raison a toujours tort. Puisque de toute façon, c'est le fanatisme, qu'il soit stalinien ou qu'il soit religieux, c'est toujours la logique du complot. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous présentez la raison comme ce qui est au service de puissances politiques adversaires de votre foi, eh bien, vous vous donnez tous les droits de riposter. Et là où Kant, effectivement, reste, enfin, Kant ou un autre, hein, Laurent Gallois aujourd'hui, par exemple, un kantien, reste très intéressant, c'est que justement, au lieu de se situer, si vous voulez, comment il va de le faire, c'est pas gentil de tuer les gens, c'est pas très sympathique. Ça sert strictement à rien de dire ça. En revanche, je trouve très fort chez Kant, et là, il le fait avec la grâce, par exemple, chez les chrétiens, quand il explique qu'il y a des gens qui croient à la grâce parce que c'est des feignants, parce que c'est des gens qui ont envie que le bon Dieu fasse le travail à leur place, parce qu'ils ont envie que même s'ils ont toujours tort et s'ils font le pire des maux, eh bien, il y a quelqu'un qui va intervenir en dernier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Kant donne le moyen de montrer comment une religion dérive dans une religiosité fanatique. Ou paresseuse, là, pour le christianisme, c'était la paresse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je crois qu'on en a toujours besoin d'avoir un critère de rationalité qui soit à la fois, c'est quand même assez dur quand même, pas complètement destructeur de religion, mais on en discutera avec Laurent, et qui en même temps soit quand même, ce que j'admire chez Kant, c'est que la raison, elle purifie la religion. C'est quand même extraordinaire ça, tout de même. Mais ça, c'est peut-être protestant.
Du coup, j'aurais bien voulu répondre à la première et puis aussi à la troisième question. Sur la première, je pense qu'il y a quelque chose chez Kant qui est tout à fait extraordinaire. Bon, que je vais rajouter un point plus personnel. Je pense que d'un point de vue personnel, c'est très difficile de parler du sentiment d'être touché par Dieu parce que, disons, ou de l'extérieur, c'est très difficile d'en parler parce qu'on peut en avoir, disons, la puissance de la conviction subjective, la puissance du sentiment qu'on peut avoir dans une expérience donnée, ne peut pas avoir statut de preuve ou d'attestation du fait que c'est Dieu qui est à l'autre bout du fil. Parce que, de toute façon, je veux dire, dans une hallucination ou sous l'emprise de la drogue, on peut avoir des convictions subjectives très fortes également. Bon. Mais alors là, ce que Kant lui apporte à cette question, qui me semble pour le coup vraiment, vraiment fabuleux, c'est que le fait qu'on ne sache pas, qu'on ne puisse pas savoir si Dieu existe ou pas, et qu'on ne puisse que l'espérer avec tout notre cœur, c'est une situation qui n'est pas à déplorer, c'est un bienfait. Et en fait, c'est ce Dieu qui existe certainement pour Kant croyant Dieu. En fait, en nous plaçant dans une situation d'ignorance, il nous a fait le plus merveilleux des dons. Parce que si l'on était absolument certain de l'existence de Dieu, et si l'on savait parfaitement dans le détail ce qu'il voulait et quand il nous récompenserait ou quand il nous punirait, nous serions des marionnettes gouvernées par l'intérêt, le calcul d'intérêt et la peur. Donc le fait de nous laisser dans une situation d'ignorance relative est un cadeau, et pas du tout en fait quelque chose qu'il faut déplorer comme ça pouvait être le cas au XVIIe dans certains milieux. Enfin, voilà, ça c'était pour la première question. Pour l'autre, je pense que il y a plusieurs difficultés. Il y en a une qui est de considérer les religions, on va dire, comme des blocs. C'est-à-dire, en fait, est-ce que le catholicisme ou l'islam ou le judaïsme, ça a une existence? Est-ce que c'est pas simplement, en fait, du coup, des fictions schématiques? Je crois que ce que Kant nous enseigne, entre autres, c'est que en fait un texte s'interprète de différentes façons et que en fait le problème c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Alors vous avez raison qu'aujourd'hui, bien sûr, je veux dire les gens qui sont les fanatiques les plus violents et qui posent le plus de problèmes au niveau mondial se présentent eux-mêmes comme des lecteurs du Coran. C'est sûr. Maintenant en fait, est-ce que ça tient au Coran ou est-ce que ça tient à un contexte géopolitique, c'est une autre question. C'est une autre question. Mais il me semble que ce que dit Kant, en tout cas, reste éminemment valable, quelle que soit la religion à laquelle on a affaire. Donc là, je suivrai aussi Madame Castillo. C'est-à-dire que toute religion, sans exception, est justiciable d'une critique logique, théorique et morale. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'on agisse, par exemple, en se disant, Que Dieu puisse récompenser des bonnes actions avec des vierges au paradis, c'est une aberration. C'est une aberration morale. Comment est-ce qu'on peut croire qu'on est moral alors qu'en fait, là, il y a quelque chose quand même qui est hautement problématique d'un point de vue moral et qui dit voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui veut bien réfléchir en fait à ses motifs. En compte, ses motifs sont sensuels et ses motifs sont pas le respect du bien. Quoi. Enfin bon, quelque chose comme ça. Donc, je pense que cette critique, elle peut être tout à fait opératoire. Pour n'importe quelle religion. Et puis par ailleurs, je pense que le risque de dérive effectivement de la religion vers le fanatisme, Kant aussi montre bien à quoi ça tient et que ça peut, c'est aussi vrai pour les religions de son époque, pour les religions qui aujourd'hui peut-être posent plus de problèmes. Mais là encore, j'aurais du mal à dire l'islam, la religion, l'islam, c'est un devenir particulier. Disons, voilà, je développerai pas, parce que ce serait plus de l'analyse historique sociologique qu'en fait de la philosophie à proprement parler.
Alors, je crois que Laurent souhaite réagir au propos.
En écoutant les deux interventions, en fait, il m'est venu à l'esprit une chose, c'est-à-dire que c'est le rapport même à un travail philosophique qui est posé, au fond. Si l'on est, et même, je dirais, la façon de vivre le... Je dirais tout simplement quelque chose qui a rapport avec la philosophie. Si on prend la religion dans les limites de la simple raison, avec l'espoir de...
De réveiller les morts.
C'était un gong. Avec l'espoir de dégager des lignes qu'on pourrait... appliquer avec efficacité, ça marchera à tous les coups, puisque c'est Kant qui l'a dit, ce qui n'est pas sûr. Donc, on est dans une instrumentalisation du penser et on se met à fonctionner de manière complètement rationaliste. Et c'est comme cela que l'on révoque certaines pensées au prétexte qu'elles ne sont pas efficaces dans leur application. Or, c'est à toute autre chose que la religion, dans les limites de la simple raison, nous appelle. C'est pas parce que j'ai passé du temps là-dessus avec un glossaire qui m'a fait suer. C'est à une attitude. Une attitude. D'abord, une attitude. Voilà. Ce que Kant appelle, à des moments précis de son œuvre, une révolution copernicienne dans la manière de penser. Ce qui, chez lui, veut dire vivre. C'est une attitude. C'est donc s'y mettre, revoir les manières de se décider, de désirer, évaluer les fins que l'on poursuit. Et en écoutant, je dirais à l'instant, Raphaël Hersan et Monique Castillo, il y a deux bénéficiaires. L'homme, qui travaille davantage sur le terrain du liberté, et Dieu, aussi, parce qu'il est libéré des représentations de l'homme. Postuler Dieu, c'est pas postuler un contenu. Postuler Dieu, c'est postuler ce qui permet d'avancer dans la vie, vers une moralisation. Alors, certes, il y a des expressions historiques de diverses religions, et c'est là où un regard dans une veille critique peut évaluer ce qu'il en est de ces représentations de Dieu, des discours, des expressions dogmatiques etc., me semble-t-il.
Oui, Raphaël.
Je peux rebondir. Tout en étant en fait vraiment d'accord avec l'ensemble de ce que vous venez de dire, je crois que l'idée qu'il puisse y avoir un impact du texte fort, et en particulier de celui-là aujourd'hui, je crois que on n'est pas forcément coupable ou suspect de verser dans l'instrumentalisation pour autant. Je vais donner juste un exemple. C'est que y a une crispation aujourd'hui extrêmement forte sur les habitudes alimentaires ou sur les coutumes vestimentaires particulières liées à telle ou telle religion. Et je pense que les réflexions telles que Kant les mène, pour peu qu'on les diffuse un petit peu, je pense qu'elles ont quand même, elles disent des choses qui sont saines, disons, pour les religions elles-mêmes. C'est-à-dire que Dieu, s'il existe, du coup, je vais dire, ce sera plus simple, mais Dieu, s'il existe, et si effectivement il attend des hommes qu'ils se comportent en personne de bien, n'accorde strictement aucune importance au fait qu'on mange ceci ou cela, ou qu'on ait effectivement dans les cheveux ceci ou cela. Il attend le fait qu'on s'entraide, qu'on se respecte. Et donc, les choses qu'on peut connaître par la raison pratique et les choses qui sont commandées par un texte historique particulier, ce n'est pas du même ordre. Donc, d'une certaine manière, ce que ça nous enseigne quand même, c'est que bon, les communautés où on fait pression sur des jeunes filles ou sur des jeunes garçons pour qu'en fait ils mangent pas ceci, ils mangent pas cela, ils s'habillent comme ci, ils s'habillent comme ça. Donc déjà ça n'a aucun sens religieux. Et en même temps, je veux dire. Dans les arguments aussi de la troisième et la quatrième partie sur la liberté aussi des pratiques et puis la liberté des traditions, il y a aussi le fait que c'est néanmoins une valeur essentielle alors de ce que nous on appellera la démocratie quand employez pas ce terme-là, mais de laisser les gens aussi s'habiller comme ils le souhaitent ou manger comme ils le souhaitent. Mais en même temps, voilà, c'est-à-dire qu'on a à se battre sur deux fronts. Je pense que Kant nous donne à la fois les moyens de nous battre sur le terrain de la laïcité et du respect en fait de la diversité des pratiques, et en même temps il nous donne un outil qui nous manque aujourd'hui, et qui est le fait de faire réfléchir les religieux sur l'importance fantasmée qu'ils accordent parfois à des éléments en fait tout à fait contingents. Hein. Voilà, le poisson, le porc, la kippa, le voile, ça n'a aucune importance morale.
Attendez peut-être le micro ou sans ça parler vraiment fort, et puis ensuite à Henri Lowe aussi.
Juste pour le plaisir, parce qu'on est au Centre Sèvres, vous nous feriez un petit comparatif entre Kant et Saint-Ignace ? Divergence, point commun. Rapide.
On va prendre la question d'Henri Lowe, ça donnera à Laurent, par exemple, le temps de réfléchir à la question. Henri ?
Elle sera de nature un petit peu différente. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle traduction, est-ce que, même si on a fait allusion à ce point, est-ce que tu pourrais dire un petit peu plus, disons, des principes qui t'ont guidé, de ce que tu as souhaité faire hein, dans cette nouvelle traduction, donc par rapport à ce qui a pu précéder, et les difficultés peut-être spécifiques aussi rencontrées. Hein, donc, qu'est-ce qui caractérise finalement ce qui te tient le plus à cœur dans cette nouvelle traduction, édition ?
Je ne m'attendais pas à cette question-là. Je ne sais pas ce que pensent Monique Castillo et Raphaël Hersham de l'allemand de Kant, mais il n'est pas toujours très agréable à lire. Voilà. J'ai eu beaucoup plus de plaisir à traduire la raison dans l'histoire de Hegel, où il y a chez Hegel, je crois, une intelligence de la langue allemande, de son dynamisme, de sa vie interne, de sa puissance aussi, Alors que l'allemand de Kant, et particulièrement dans les limites de la simple raison, est quand même un allemand très, très, très noué. Je dirais l'impression, quand on lit le texte de Kant, c'est d'être sur une série de lignes maginot où toutes les précautions sont prises pour que toutes les attaques possibles puissent être, je dirais, déjouées. En plus, avec un style que je ne trouve pas forcément, je dirais, extrêmement agréable à lire. Voilà. Pour avoir travaillé, par exemple, la Deutsche Metaphysik de Wolff, qui écrit quasiment tout de suite en allemand et habite l'allemand, c'est un allemand simple, enfin, qui coule de source. Voilà. Donc la difficulté est d'abord celle de, je dirais, de la langue, d'une technicité, et puis, de mon point de vue, sans être dans un artifice, ce qui est toujours une menace quand on traduit un texte philosophique, dans un artifice de recherche d'expression nouvelle pour marquer le coup, au fond, là où il s'agit de permettre, autant que faire se peut, à un lecteur francophone qui ne lit pas l'allemand de ce texte, de se rendre compte que tout le travail, je dirais, tout le champ lexical, toute la conceptualité de la philosophie critique est pleinement à l'œuvre dans la religion, dans les limites de la simple raison. Et c'est ce qui fait que ça m'a valu des échanges de mails entre le directeur de la maison d'édition et moi, en plein mois d'août, quand j'étais quelque part en Finistère, pour convenir qu'il fallait absolument aboutir à un glossaire des notions kantiennes engagées dans les limites de la simple raison. Voilà. À la fois pour expliquer l'enracinement, c'était mon objectif, au fond, que, je ne sais pas si j'y suis arrivé, mais que cette œuvre-là de Kant n'est pas quelque chose d'isolé dans le corpus kantien, mais pleinement enraciné dans la philosophie critique et transcendantale de Kant, et ça ne pouvait techniquement passer, selon le directeur de la maison d'édition, c'est le projet qui l'intéressait et auquel Yves Charles Arca a cru, parce que c'est lui qui m'a trouvé l'éditeur, d'une certaine façon, très rapidement, donc le projet qui l'intéressait. Ce travail sur le champ lexical est montrer que l'œuvre appartient à la philosophie critique et transcendantale, parce que ce n'est pas toujours évident, y compris chez un certain nombre je dirais, de spécialistes de Kant, qui situe un peu l'œuvre comme étant à part. Bon. Les principes, pour moi, ils ont été de toujours aller regarder dans ce qu'on appelle le narlas de Kant, c'est-à-dire les réflexionen, les choses écrites sur des bouts de papier, dans ses leçons aussi, ce que Kant écrivait pour lui-même sans que ce soit l'objet d'une publication. Et là, je trouve, alors vous qui avez traduit des réflexionen de Kant, je trouve que l'allemand de Kant, dans les réflexionen, me semble-t-il, est moins, je dirais, noué, torturé, et on pourrait dire qu'il se lâche davantage, puisque c'est pour lui et que ce sont des brouillons. Voilà. Donc, par certains aspects, il livre dans ses brouillons, ce qu'on a aussi dans le Narlas ou dans son cours théologie naturelle, un certain nombre d'éléments très précieux qui sont présents aussi, parce qu'il faut être attentif à la manière dont c'est écrit, dans les œuvres publiées. Ce qui autorise, et je me suis senti autorisé, ça et là, à faire jouer ces sens que je trouvais dans ces textes non publiés de Kant, des brouillons, des feuilles de papier, des notes en marge, à le faire jouer dans des choix de traduction. Voilà. Et comme je dois avouer, remis ce texte il y a un peu plus d'un an, et que je ne sais pas comment vous réagissez quand vous publiez, mais généralement, je me garde bien d'ouvrir le livre une fois qu'il arrive. Si je l'ouvre, je ne vais pas jusqu'au bout, c'est les 3 ou 4 premières pages, j'ai plus trop en tête les choix précis que j'ai faits. Voilà.
En tout cas, je peux vous garantir que la lecture est très facile. C'est un Kant digestible.
Et,
C'est un beau compliment.
Si je puis dire un mot, le glossaire est juste extraordinaire. C'est-à-dire, c'est presque, ça aurait pu être un livre à part. C'est-à-dire, en fait, il fait quasiment 100 pages. Et à la fois, en fait, il y a une dimension philologique de lien effectivement avec les autres textes de Kant, sans que ce soit du tout en fait une reprise du Kant Lexicon, parce que ce sont des notices raisonnées, donc qui accumulent pas uniquement les références, mais qui fournissent, enfin, qui offrent à chaque fois une explication et un essai même de réflexion et d'unification de la notion au travers des différents textes. Donc ça, c'est à la fois des clés de lecture très précieuses pour l'ouvrage lui-même, et en même temps des ponts avec l'ensemble de l'œuvre de Kant. Donc ça en fait effectivement aussi un travail unique.
Oui, bien sûr, allez-y.
Il y a un point sur lequel je nuancerais ce que vous aviez dit. Vous avez dit quelque chose de très juste, à savoir que les signes extérieurs, disons, de religiosité, ne sont pas moraux. On parle en termes kantiens, d'accord, et que par conséquent, c'était indifférent. Et c'est là que je ne suis pas d'accord. Je ne crois pas que ce soit indifférent, parce que ça n'est pas moral, on est d'accord. Parce que je pense que tout l'effort de Kant, là, je parle un petit peu le glossaire kantien, mais je m'en excuse, c'est de passer de ce qu'il appelle le schème au symbole. C'est-à-dire que le défaut des religions, c'est de schématiser le spirituel. Je prendrai un exemple ridicule, vous me le pardonnerez, mais au moins ça ne blessera personne, on est tranquille. Lorsque les hommes du Moyen-Âge partaient à la guerre et qu'ils mettaient des ceintures de chasteté à leurs femmes, c'est matériel, c'est la vertu matérialisée. Et je crois que ce que Kant souhaite, c'est que les religions aillent dans un sens symbolique, à savoir que la vraie Église, elle est invisible, et que les vraies valeurs, ce n'est pas des choses, ce sont des significations. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, c'est un petit peu pour débattre sur ce problème, parce que je pense que l'indifférence n'est pas forcément une rationalisation du rapport aux signes religieux. Voilà. Mais c'est un vrai débat qui mériterait plus d'apports de matériaux.
Alors, je crois que Laurent veut répondre, et Raphaël aussi, apparemment.
C'est-à-dire que la précision qui vient d'être apportée, bon, c'est un peu technique, schème et symbole, mais on pourrait dire que c'est passé de ce qui permet de signifier, pour faire bref, côté schème, à quelque chose, le symbole qui permettrait de
spiritualiser.
Voilà.
Spiritualiser.
Et on le voit
la
très bien.
La vertu se spiritualise.
Et on le voit très bien dans le lexique, alors pour le coup kantien, quand il y a un travail sur un terme geistlich, qui est qu'on traduit habituellement par l'ecclésiastique, etc., et qui, de fait, va être l'homme de la religion dans les limites de la simple raison. Et on n'est plus dans une affaire ecclésiastique. On passe, je dirais, d'un signe à quelque chose qui est de l'ordre d'un travail par analogie. Voilà.
Très brièvement, je suis d'accord en fait sur cette distinction entre schème et symbole, au sens où traiter par exemple un rite alimentaire ou vestimentaire comme un schème d'une vertu, ce serait de dire, voilà, par exemple, je veux dire, par exemple, je ne sais pas moi, porter une chasuble et telle étole, c'est ça.
De façon, le vendredi.
C'est être bon, c'est aimer Dieu, c'est indispensable pour aimer Dieu, ou c'est vraiment, bon, c'est ça l'amour de Dieu. Ou pareil pour effectivement pas manger de poisson vendredi, quelque chose comme ça. En faire le symbole, dire, c'est en fait simplement une manière d'exprimer l'amour de Dieu. Et s'il n'y en avait pas du tout, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de rite, s'il n'y avait pas un rite, alors peu importe que ce soit celui-là ou un autre.
Du public, hein, que le rite existe évidemment dans les synagogues, dans les mosquées, dans les églises, c'est totalement naturel. Je parle du problème, c'est un problème politico-public, oui. Religieux. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà, c'est autre chose.
D'accord.
Est-ce qu'on doit schématiser, corporifier son appartenance religieuse, ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux la symboliser, c'est-à-dire Dieu sensible au cœur, comme disait Pascal ?
Alors à ce moment-là, je vais faire une réponse plus personnelle, même si je pense qu'en un sens, Kant ne l'aurait pas forcément démenti, mais on va dire tendanciellement plus rousseauiste. Je crois que pour que le symbole ait sa juste place, il est important qu'il existe, mais qu'il soit en même temps énoncé comme symbole. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je verrais bien des prêtres ou des imams ou, bon, dire bon, nous adorons Dieu en mangeant de telle manière et voilà, et fidèlement à ce que nos ancêtres ont fait. Mais en fait, le fait que d'autres le fassent autrement, c'est pas du tout un problème. C'est-à-dire le fait qu'on adore Dieu en se passant de viande et en mangeant du poisson ou en se passant de porc, c'est deux manières d'adorer Dieu. Et si c'est fait avec le cœur, pour Dieu, c'est la même chose. Et ça, je pense que si c'est pas dit dans une église ou si c'est pas dit dans une mosquée, c'est facteur d'intolérance. Donc je pense que à la fois c'est important qu'il y ait des symboles, mais en même temps c'est important qu'ils soient nommés comme symboles. C'est-à-dire relativiser.
Je laisse le débat.
Oui, mais donc, je crois que le débat est en train de toucher à sa fin, puisque vous savez bien que nous avons l'habitude de terminer très précisément à l'heure, à 21h30. Et donc, je voudrais d'abord en prendre deux minutes, remercier très chaleureusement les intervenants de ce soir, Laurent pour sa traduction, son glossaire tout particulièrement, mais aussi bien sûr sa traduction, et puis Monique Castillo et Raphaël Ersam, dont les interventions ont été très stimulantes et nous donnent à penser l'intérêt de ce texte aujourd'hui. Pour conclure, je voudrais simplement vous inviter à prendre éventuellement les tracts que vous trouvez dans le hall d'entrée, et en tout cas vous annoncer la soirée du 10 février qui nous présentera par un Chinois venu de Sun Yat-sen, de Canton, un Chinois qui traduit Lévinas d'un côté, un Français qui traduit un Chinois, Thierry Ménard traduisant Liang Shuming. Et je pense que c'est une occasion un peu unique de que cette approche croisée. Autre soirée que je vous annonce et dont pourrait parler mieux encore Laurent Gallois, la soirée des archives de philosophie du 17 février, donc il s'agit de deux soirées à une semaine d'écart, autour de Michel Foucault, à l'occasion du numéro consacré, enfin avec du dossier consacré à Michel Foucault, et donc avec Jean-François Bornstein et Jocelyn Benoît. Donc, deux belles soirées en perspective. Ah, si vous voulez, allez-y.
Le 19 février, il y a une soirée qui s'intitule « Laïcité et intégration ».
Ah oui.
À partir de la dernière parution, ici, à partir de la dernière parution de la revue Études, qui portait sur la laïcité.
Vous avez écrit les...
J'ai écrit dedans, malheureusement je ne serai pas là, mais il y aura un psychanalyste, il y aura un historien, et c'est un numéro absolument passionnant.
Ah oui,
donc le 19, enfin voilà.
Donc le 19,
à la place.
Voilà, donc vous pouvez venir souvent.